Ils s'affichent aussi bien en ville qu'à la campagne. On s'intéresse maintenant au phénomène des tags et des graffitis.
C'est une jolie promenade poétique.
Et sur le mur de l'église, des inscriptions pornographiques à l'encontre de Jésus.
C'est quelque chose de gratuit que les gens peuvent s'approprier.
Bah regardez, là, c'est ça, et ça, c'est pas beau, ça. C'est pas beau, c'est des phrases, il n'y a pas de graphie, c'est pas beau.
Ce sont des inscriptions obscènes.
On arrête de percevoir les graffeurs comme des délinquants. On s'aperçoit que c'est de véritables artistes.
Bon, ils peaufinent bien leur plan que tels des braqueurs de banque, en fait. Hein.
C'est très inspirant parce que c'est divers, varié.
Mais symboliquement, c'est quelque chose de très fort et de grave, symboliquement.
Terrain Vague, une émission proposée par Laura Marie.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Terrain Vague. Il faudrait que je trouve une meilleure phrase d'accroche, je pense, parce que je dis toujours la même. Bonjour Tom à la régie. Et bonjour à notre invité du jour, Quentin DMR.
Bonjour Laura.
Artiste plasticien.
Exactement.
comme j'ai l'habitude de le faire pour tous mes invités artistes, on va revenir sur ton parcours, sur les projets, la variété un peu de projets que tu mets en œuvre. Ta démarche, etc. Enfin, voilà tout ça, quoi.
Très bien, ça me va.
Ça te va, c'est bon. Dis-nous un peu, présente-toi, dis-nous d'où tu viens,
alors,
comment tu t'appelles.
Alors, je suis Quentin DMR, donc photographe plasticien. Mm-hmm. Je suis originaire du Havre.
Ok.
Et j'habite à Montpellier.
Comment ça se fait que tu es arrivé à Montpellier ?
Je suis arrivé à Montpellier par des choses de la vie, par mon ex-copine qui s'est installée ici. Du coup, okay. Je l'ai suivi un peu et, okay. Et du coup, je suis resté là parce que j'ai adoré la ville et je m'y sens bien.
Ok, ça te manque pas un peu le Havre des fois ?
J'y retourne de temps en temps, mais non, pas plus que ça.
On est bien dans le sud. je ne sais pas si nos auditeurs connaissent Quentin ou pas, mais il gagne à être connu pour ceux qui ne le connaissent pas. Tu travailles, alors j'ai dit artiste plasticien parce qu'effectivement tu travailles avec des médiums qui sont très variés.
C'est ça.
Et sur de la photographie notamment, tu nous expliques un petit peu en quoi consiste ce que tu fais.
En gros, la base de mon travail, c'est la photographie. Donc je pars toujours d'une photo que je fais.
Mm-hmm.
Et ensuite, c'est mon côté plasticien, c'est-à-dire que je travaille l'image, donc soit le papier, soit je travaille des fois sur du bois, sur du verre, sur des drapeaux, sur des voiles de bateaux, sur de la bâche. C'est très en fonction du projet, du lieu, j'adapte aussi le
médium.
Le médium.
Oui, d'ailleurs, le drapeau, on a pu voir des portraits que tu avais fait à Figrolles.
Exactement. J'avais mis en avant, donc ça, c'était une commande pour la mairie de Montpellier.
Mm-hmm.
Et j'avais mis en avant les habitants du quartier Figuerolles, où j'habite
ouais.
d'ailleurs. Et j'avais sélectionné environ 10 personnes et j'avais fait des drapeaux un peu hommage aux habitants du quartier qui étaient installés sur la place à l'endroit.
C'est ça, qui flottait au vent.
Flottait au vent, exactement.
Et pourquoi comment t'es venue l'idée de prendre en photo ces gens et d'en faire ce que tu fais après sur ces médiums-là?
C'est une idée à la base, donc c'est beaucoup, beaucoup de réflexion sur trouver un peu une signature aussi de mon travail.
Mm-hmm.
Donc quelque chose de régulier et de répétitif, on va dire. C'est aussi ce qui m'intéressait dans mon médium.
Mm-hmm.
Et du coup, ça a commencé tout simplement avec un portrait, des ciseaux, une feuille, et puis on essaye de
okay.
trouver une bonne combinaison. Quoi.
D'accord, tu as essayé comme ça, t'étais un peu à la recherche de cette déstructuration que tu mets
en fait, oui.
En
j'avais fait une installation, en fait, une de mes premières installations, c'était à la Galerie Éphémère,
mm-hmm.
à Villeneuve-les-Maguelones.
Mm-hmm.
Et je voulais travailler sur... Donc, c'était dans les salins. Et je voulais travailler sur une personne en particulier qui s'appelait Paul, qui était né dans les salins et qui
okay.
avait travaillé toute sa vie dans les salins. Donc, ses parents, lui-même, etc.
D'accord.
Et en gros, j'ai travaillé sur lui. Je voulais faire quelque chose de déstructuré. Je voulais pas qu'on le reconnaisse, en fait, directement. Et c'est à partir de là où j'ai essayé de créer une installation, on va dire, déstructurée, un peu mélangée. Donc, c'était vraiment sa voix qui était mise en avant.
Mm-hmm.
Et son visage était installé de façon, on va dire, une sorte d'anamorphose déstructurée, installation dans la pièce. Et les gens pouvaient marcher entre chaque pan qui était suspendu au plafond.
Ah oui, donc une expérience immersive, quoi.
Très immersive. Et en fait, petit à petit, c'est parti de là. La réflexion est partie de là. Et puis après, j'ai trouvé de plus en plus une signature. Et... on va dire que tout est un peu parti de là,
okay.
grosso modo.
Et dans cette déstructuration, est-ce que tu assembles les éléments que tu découpes toujours de la même façon ?
Pas du tout.
Ah,
à chaque fois, c'est totalement différent. C'est vraiment au feeling, c'est-à-dire que je vais travailler sur un portrait, je vais le mélanger. De plus en plus, ça me plaît dès le début, mais aussi c'est à force de le faire, je sais comment peuvent matcher les bandes, on va dire. Mm-hmm. Mais c'est vraiment un travail d'atelier en amont, à la manière d'un puzzle un peu. On essaye, on voit si ça matche pas.
Okay. Ouais. Bon, on parle d'atelier et on y reviendra tout à l'heure, mais tu interviens dans l'espace public ?
Exactement, c'est où j'ai commencé aussi, principalement.
Alors, quel est ton lien Alors, je ne sais pas si tu viens du graffiti ou pas, est-ce que tu as pratiqué
J'ai pratiqué un petit peu, mais je ne pourrais pas dire que je viens du graffiti.
D'accord.
On va dire un peu comme tout le monde, j'ai essayé avec des potes, on en a fait un petit peu, mais ce n'est pas du tout ma passion, ma base, etc. Je respecte, je m'intéresse et je connais un peu, mm-hmm. mais non, c'est pas du tout ma pratique.
Mais
principale.
Est-ce que justement, par contre, le fait de d'intervenir dans l'espace public, que ce soit par le graffiti, c'est ça qui t'a donné envie aussi de mettre tes œuvres à l'extérieur?
En fait, c'est que dès le début, je voulais montrer mon travail. Et en fait, il n'y a qu'une seule solution, on va dire un peu illégale, et pour que le grand public le voit le plus, c'est mm-hmm. dans la rue. Et c'était aussi, ça correspondait à ce que j'avais en tête aussi et ce que je voulais, c'est-à-dire rien demander à personne et faire mon truc un peu tout seul, quoi. Donc okay. C'est vraiment la base de ça. Donc ça, j'en ai fait des dizaines et des dizaines avant de, on en reparlera peut-être après, mais d'avoir des commandes, d'avoir d'exposer en galerie et autres.
C'est à Montpellier que tu as commencé, du coup ?
Alors j'ai commencé un peu en Normandie, ensuite je suis allé en Nouvelle-Zélande, donc j'ai pas mal fait en Nouvelle-Zélande, okay. et après j'ai réellement commencé à Montpellier, ouais.
Ok.
Et surtout des vraies commandes, disons, à Montpellier.
C'est là qu'on trouve les meilleurs de toute façon.
Exactement.
Alors tu parlais d'atelier tout à l'heure, tu as ton atelier au 411.
Exactement.
Dans lequel tu travailles toi sur tes projets perso, mais aussi où tu montes des projets collectifs avec d'autres artistes.
C'est ça. En fait, le 411, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un tiers-lieu, on va dire, culturel, avec mm-hmm. Une galerie, un studio photo, vidéo, mais aussi des ateliers, un espace de coworking. Donc nous, moi je suis là-bas avec le collectif Figure, qui est notre collectif, composé d'artistes montpelliérains. Et en fait, on fait la direction artistique, donc on organise des expositions là-bas. D'ailleurs, la prochaine sera en juin et c'est l'artiste Scaro qui viendra faire un solo show là-bas.
Yes.
À partir du 6 juin, je crois.
Trop bien.
Et donc voilà, donc on fait la direction artistique, on gère un peu tous le lieu, on est une dizaine, quinzaine et voilà, c'est un lieu culturel qui mérite d'être visité.
Qui mérite d'être connu et visité, tout à fait. D'ailleurs, en ce moment, il y a l'exposition de nos copains Kourou et Dr Ponce.
Exactement.
Que j'encourage nos auditeurs à aller voir. Du coup, tu as un peu une double casquette de ce que je comprends. Tu as ta carrière artistique, mais tu as aussi cette gestion, cette direction artistique.
C'est à force de rencontres, d'opportunités, de propositions, etc. Ouais, ça fait partie aussi. Je l'ai fait aussi pour le Calive à 7 pendant plusieurs années, ouais.
Ok.
Et avec Christelle Labazor.
Oui, qu'on a reçue la semaine dernière.
Ah bon ?
Ouais. Voilà, tu vois. C'était trop cool.
Et maintenant, j'ai malheureusement plus le temps de m'occuper de ça. J'ai malheureusement plus le temps de m'occuper de ça, mais je le fais à petite échelle au 411. Donc c'est plutôt cool, quoi.
Et c'est quelque chose que tu aurais envie de redévelopper par
ouais,
la
bien
suite
sûr, bien ouais. sûr. Là, j'ai vraiment pas le temps de m'en occuper. Je priorise ma carrière professionnelle, disons. Mm-hmm. Mais ouais, bien sûr. Bien sûr, c'est quelque chose que j'ai toujours en tête et je le ferai.
Ce collectif Figure dont tu parles, j'ai pu voir... Alors, c'était la première expo, j'imagine, au 411, les miniatures
Non, on en avait fait une dans une autre galerie, Arte Rosa,
ouais.
à Montpellier, il y a, je dirais 4-5 ans, je ne sais plus exactement la date. Là, on en a fait une autre l'année dernière, donc c'est une expo miniature, comme tu disais.
Qui était trop chouette.
Où on avait invité une trentaine d'artistes, je crois, de Montpellier. Et le thème, pardon, c'était donc miniature, et c'était on imposait aux artistes de faire des tableaux de maximum 5 cm sur 5 cm. Mm. Et chaque personne venait et il y avait, je crois, environ 500 œuvres. Et chaque personne les découvrait avec une loupe.
Ouais.
On mettait à disposition une loupe aux gens.
Le concept était génial.
Ouais, trop bien, ça a trop bien marché.
Le concept
était
trop cool.
Beaucoup de monde.
Quand tu parles de la loupe, je pense surtout aux œuvres de Camille Adra qui
étaient
minuscules.
C'est ça.
Et avec la loupe, l'interaction avec l'œuvre, c'était.
C'est ça. Et en fait, c'est 5 sur 5 maximum. C'est-à-dire qu'il y en a qui faisaient, donc Camille
plus petit,
par exemple,
ouais.
qui en avait fait, je crois, des 0,5 sur 0,5.
Oh, il est fou.
Donc voilà, donc ça, ça avait très très bien marché. Et ça a tellement bien marché qu'on a une édition parisienne qui arrivera en début d'année 2025.
On a reçu, il n'y a pas si longtemps, Tanguy, du coup, ouais. qui est au 411 et de l'assaut Incarsade.
Exactement.
Et on avait parlé justement de cette exposition, de ce collectif et de l'envie d'avoir une exposition itinérante.
C'est ça.
Donc là, tu parles d'une date à Paris.
C'est ça.
Avec d'autres artistes.
Avec d'autres artistes. Donc on gardera des artistes montpelliérains, mais aussi on mettra vraiment l'accent sur des artistes parisiens.
Ok. Et l'idée après, c'est de continuer dans d'autres...
On verra, ouais, pourquoi pas. Enfin... C'est l'idée. Après, l'avantage de cette expo, c'est qu'elle tient dans une valise. Donc tout est simple.
Le transport des œuvres ne coûte pas trop cher.
Tout est simple. La mise à place est beaucoup plus longue, beaucoup plus compliquée. Mais ouais, pourquoi pas. En fait, on se laisse un peu guider parce qu'on a chacun aussi nos carrières respectives. Mais quand on a le temps, on essaye d'organiser ça. Et puis, mais pourquoi pas une édition dans d'autres villes, quoi.
Comment vous avez eu l'idée de faire du très petit comme ça ?
Alors ça, c'est, si je me souviens, c'est autour d'un apéro. On cherchait des idées d'une nouvelle exposition. On a essayé de faire des expositions un peu immersives et originales. Mm-hmm. Et puis voilà, on discutait pendant des heures et au final, on est tombé là-dessus.
C'est marrant, comme les meilleures idées viennent souvent autour d'un verre.
Exactement, c'est vrai.
Oh là là, j'ai hâte de voir quelle va être la sélection des artistes. Bon, je ne pourrais pas l'avoir à Paris certainement, mais de voir en tout cas la sélection des artistes.
On en saura un peu plus, je pense, en fin d'année, quoi, octobre, novembre.
Ok, d'accord. Donc ce sera pour quand même 2024 ou pour 2025
2025. Okay, normalement, 2025. C'est prévu en janvier 2025.
D'accord. D'autres projets au 411 que tu mènes comme ça en dehors du collectif?
Pour l'instant, Figure. Non. Donc là, avec Figure, j'organise l'expo de Scarro dont je te parlais tout à l'heure, donc qui se déroulera de juin à début juillet. Mm-hmm. Et pour l'instant, c'est tout. Après, on se répartit un peu, disons, les créneaux. Mais pour l'instant, c'est le seul projet qui est mis en place au 411. Okay. Et après, il y a d'autres expositions, bien évidemment, tout le temps.
Oui, bien sûr.
Il y aura peut-être un projet cet été. On ne veut pas trop en parler pour l'instant, mais okay. Ça peut être un projet intéressant.
Peut-être qu'on te refera revenir pour en parler.
Peut-être.
Dans ce que tu fais, donc on parlait de l'humain que tu mets vraiment au centre de tes œuvres, mais parfois c'est pas l'humain. Et ce que j'ai vu dans ce qui était vraiment pas de l'humain, c'était la mer, les vagues surtout. Toujours sur ce principe de découpage, de déstructuration, etc. Pourquoi ce sujet-là et comment tu fais la différence? Enfin, je veux dire, comment tu choisis de mettre à quel moment tu choisis de mettre l'humain plutôt que
En fait,
paysage.
Ça dépend. C'est bizarrement, chaque idée, on va dire, correspond à une exposition. Donc, j'ai des thèmes d'exposition. Enfin, je me donne plutôt des thèmes d'exposition. Mm-hmm. Et là, la dernière exposition, je voulais faire un truc très abstrait et pas sur l'humain. J'avais envie de quelque chose de très léger par rapport aussi à ma vie privée et choses. Je voulais sortir un peu du côté humain et travailler sur... quelque chose de très, on va dire, rêveur et voilà, donc ça m'allait très bien. Donc c'est parti là-dessus, j'ai préparé l'expo au Brésil et ensuite elle a été exposée à Paris chez Artistique Réseau dans le 11e. Okay. Et suite à ça, donc j'ai eu plusieurs commandes de fresques murales principalement, mm-hmm. et qui ont été plus basées là-dessus. Donc après ça ouvre aussi un panel de propositions, disons, aux clients. Et des fois, on choisit des visages quand c'est des projets qui sont liés à un lieu particulier, à des gens particuliers. Mm-hmm. Mais quand c'est, on va dire, libre, je me permets de faire plus de choses comme ça. Et ça dépend avec qui aussi. Là, on en parlait tout à l'heure, mais par exemple, des marques d'affaires, mm-hmm. C'est beaucoup plus neutre de travailler sur quelque de nature, disons, que des visages. C'est moins personnel, donc ça marche aussi un peu plus, je pense.
Ok. Je me demandais, et pourquoi la mer ?
Parce qu'en fait, je suis allé sur l'île d'Ila Grande au Brésil pendant un petit temps et je tombe amoureux de cette île. Et j'ai fait une expo qui est en lien entre... Sur l'île, c'est une toute petite île sans route, sans voiture, sans rien. Et il y a la jungle et la mer. Et du coup, j'ai travaillé sur la jungle, des photos de jungle vert qui ont été transformées pour le coup en sérigraphie. Donc tout ça, c'est que des sérigraphies. Et la mer, pareil. Tout ça, tout a été pris sur la même île.
Tu voyages beaucoup ?
J'essaie, ouais.
je te suis sur les réseaux, je vois que tu voyages beaucoup.
Non,
tu te nourris beaucoup de ça, j'ai l'impression.
Beaucoup, ouais. Beaucoup.
Est-ce qu'au niveau, pardon, au niveau des visages justement que tu mets dans tes œuvres, est-ce que parfois c'est des gens que tu as rencontrés dans des voyages?
Alors, en fait, dans des œuvres, oui, dans des tableaux, oui. Dans des fresques, oui et non, ça dépend des fois, parce que souvent les fresques que je fais sont liées à un lieu, c'est-à-dire je vais aller à Paris pour la prochainement, d'ailleurs, je crois que je vais faire une fresque dans un foyer qui s'appelle Amis de Pain à Paris, dans le 13e. Donc là, j'ai pris les résidents du foyer.
Du foyer, évidemment.
Là, je pars à Grimaud, à côté de Saint-Tropez. J'ai pris les gens du village. Après, quand vraiment je suis libre de faire ce que je veux, enfin, je suis quasiment tout le temps libre, mais quand je, pour des questions d'organisation, je peux pas prendre les gens sur place. Mm-hmm. Là, justement, je me permets de prendre des visages. Ben là, quand j'étais au Brésil, j'ai pris plein de Brésiliens en photo. Peu importe où je vais, en fait, je prends beaucoup de photos. Et après, j'ai une sorte de comment dit-on,
une bibliothèque,
une photothèque,
de photos,
quoi, ouais. Une bibliothèque. Et après, je choisis des gens à l'intérieur de la bibliothèque.
Ok. Donc, il y a des gens de partout, en fait.
Donc, des fois, il y a des gens de partout et des fois, il y a des gens que d'un micro-village.
Alors, on va faire une petite pause musicale comme je le fais à chaque fois que j'invite un artiste. Aujourd'hui, Quentin nous a proposé I Am DDB et le morceau Rastapasta et on revient juste après.
To keep you warm, a little vice to keep you calm, a little voice to soothe your soul. Mm-hmm. A little song to keep you warm, a little vice to keep you calm, a little voice to soothe your soul. Seca, sometimes happy seca, smoke trees, relax and breathe clear mental. Don't pick off the petals, let the roses bloom right through you. Ooh. I take a little piece of herb and a little piece of love everywhere I go. Ease my mind, cool me down till I'm calm, make me feel at home.
Protect my energy, good vibes around me. No earthly things could ever satisfy me. I need a love so secure and pure, that's the only thing that sets me free. A little song to keep you warm, a little vibe to keep you calm, a little voice to soothe your soul. A little song to keep you warm, a little vibe to keep you calm, a little voice to soothe your soul. And let me hear you.
Melody, melody, mellow me out. Jealous, they got jealousy, they cannot figure me out. Some people feel rain and the others get wet. Open your eyes and look within. Are you the change or do you fit the mold? It was IMDDP and Millifty. I brought Manuka, she THC. Took me to cloud nine, made me soar. We went up for a while about how our uncles rise. Dad's got a book to book, we rise to vice now. She had all the bad things round me. I feel good. Keep you calm, a little voice to soothe your soul.
Nous sommes de retour. Pourquoi ce morceau, Quentin, qui était tout à fait agréable?
Parce que c'est un morceau que j'écoute à l'atelier, enfin que j'ai écouté tout à l'heure à l'atelier. Et en fait, je l'ai vu en concert à Paris il y a 2-3 semaines et j'ai trouvé ça... Je connaissais déjà depuis longtemps, mais je trouvais ça vraiment cool.
C'est planant et c'est vraiment ce qu'il faut pour un lundi après-midi. Enfin non, mardi soir du coup, pardon, excusez-moi, mais bon voilà. Non, c'est ce qu'il faut, c'était très très agréable. Et ça rajoute un morceau encore différent dans ma playlist des musiques proposées par les artistes. On parlait tout à l'heure de voyage, etc. On va parler un peu de tes projets parce que bah, tu fais des projets très 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 variés. Ouais. Tu fais de la commande publique comme de la commande privée. Là par exemple, voilà, j'y pense parce qu'on en parlait tout à l'heure, tu as fait un projet pour la marque Levi's.
C'est ça,
Comment ce genre de projet avec des marques viennent à toi? Quelle est la démarche?
Ils me contactent tout simplement sur Instagram.
Ah, c'est
principalement
fou.
Sur Instagram.
Tout se passe sur Insta, quoi.
Ouais, quasiment.
Ah ouais.
Ou par mail, mais c'est vrai que c'est beaucoup sur Insta. Ouais. Et donc voilà, ils m'ont contacté, ils m'ont dit est-ce que ça peut t'intéresser de travailler sur un projet comme ça. Donc l'idée c'était de faire une fresque un peu monumentale quand même dans la nouvelle boutique sur les Champs-Élysées.
Mm-hmm.
Donc qui fait le premier étage, la case d'escalier et le sous-sol, parce qu'il y a deux étages mais c'est le sous-sol. Et donc voilà, donc on a travaillé pendant 2 mois. Je travaillais avec une agence qui s'appelle le Studio Artera à Paris, qui me représente en tant qu'agent. Donc okay. Ils font beaucoup le lien entre eux et moi. Et voilà, on a réfléchi à quelque chose. Eux, pour le coup, savaient directement, ils avaient vu les vagues dont mm-hmm. on parlait tout à l'heure. Ouais. Ils savaient qu'ils voulaient ça.
Okay.
Et ils m'ont demandé de la personnaliser un peu. Donc j'y ai rajouté un peu de texture de jean pour faire référence aussi au
denim,
au jean Levi's.
Ouais, bien sûr.
Et ils avaient fait un logo spécialement pour cette boutique, une sorte de logo Levi's, mais au lieu des chevaux, pardon, c'était l'Arc de Triomphe.
Okay.
Du coup, j'ai intégré une partie du logo dans l'œuvre,
d'accord.
mais à des petits points, enfin 2 points principalement. Et voilà, donc c'est parti de là, beaucoup d'échanges, de zoom, parce qu'en plus avec Levi's, c'est aux États-Unis, donc c'est assez compliqué.
Oui, j'allais y venir du coup, enfin c'est des marques, voilà, c'est pas une marque française. Hein,
non.
Comment
non,
ça
pas
se passe? Tu es en lien avec le siège carrément américain?
Ouais, alors là pour le coup, c'est le siège français qui nous avait contacté,
okay.
mais directement c'est passé au siège américain. Donc c'était zoom. Il y en avait qui étaient en France, à San Francisco et même en Italie, parce que Levi's c'est quand même un gros truc.
Ah ouais.
Et du coup, voilà, donc c'était beaucoup, beaucoup de liens, de zoom avec des Américains.
C'est fou.
Ouais, c'est assez fou. C'est fou que ce soit eux qui. Enfin, c'est vraiment leur boutique phare, en fait. Ce que j'ai compris en étant sur place, c'est que Levi's réellement a une seule boutique qui est sur les Champs-Élysées. Après, tout le reste, c'est des franchises. Donc, ils ne s'occupent pas forcément exactement des autres boutiques.
Donc genre la boutique Levi's qui est à Odysseum, par exemple, voilà, c'est pas.
Non, c'est une franchise.
D'accord.
Voilà.
Ok, bon, on en apprend tous les jours.
Donc ils avaient une boutique et c'était une boutique, c'est une toute nouvelle boutique qui vient d'être finie à l'instant, et ça remplaçait la boutique Disney sur les Champs pour ceux qui connaissent.
Waouh.
Voilà.
Oh le mec.
C'est drôle.
Oh ouais, tu m'étonnes. Ouais, puis ça va, tu t'envoies quand même une œuvre dans
ouais,
une boutique.
Ouais, non, c'est cool.
Levi's et sur les Champs.
Exactement.
C'est
donc,
plutôt classe.
Non, c'était, j'étais très content qu'ils me proposent aussi, qu'ils fassent confiance et tout s'est très très bien passé, donc. Que du plaisir. Quoi.
Sacrée expérience,
ouais,
j'imagine.
Ouais. Et c'est encore complètement différent des autres commandes qui peuvent être municipales ou privées.
Mais côté institution, collectivité, qu'est-ce que tu peux avoir comme demande? À Montpellier, on en a vu, t'en parlais tout à l'heure, des drapeaux.
Ouais, par exemple, à Montpellier, j'ai eu les drapeaux, j'ai eu une commande pour la TAM, pour la nouvelle ligne de tram.
Ouais.
Voilà, donc ça fait partie des commandes public, disons.
Mm-hmm.
Et c'était quoi ta question, pardon? Comment je fais le lien entre
non,
les deux?
Non, quel genre de projet du coup les institutions te demandent? Là, par exemple, pour la TAM, c'est le panneau qu'il y a devant le parc.
C'est ça, exactement. Donc, c'était un panneau, en gros, un peu pour lancer les travaux du tram. Donc, je crois que ça fait 2 ans qu'elle y est.
Mm-hmm.
Et elle est censée rester jusqu'à la fin des travaux. Et voilà, donc c'est plus une sorte d'happening un peu de projet, on va dire, de transport pour le coup. Et là, ils voulaient lier un peu transport, projet et art. Donc, ils m'ont demandé de faire une fresque.
Et sur ce panneau, c'est des gens du quartier, donc.
Et sur ces panneaux, c'est que des gens du quartier. Voilà, on avait fait une sorte de shooting photo au studio avec Laurent Rebelle, qui est aussi un photographe du studio. Mm-hmm. Et on a dû prendre, je sais pas moi, 60, 70 personnes du quartier, que du quartier vraiment de Clémenceau, ouais. Figueroles.
Gambetta, tout ça. Trop bien.
Ouais, trop bien.
Enfin, le lien que tu as avec les gens dans ce genre de projet, enfin, comment ils accueillent ? Parce qu'en plus, des habitants de quartier comme ça, ça doit sortir un peu nulle part pour eux de se faire approcher par des artistes.
Ouais, après, on avait prévenu en amont quand même les différentes assos du quartier pour leur dire voilà, tel jour il y aura un shooting photo. Et puis, les gens jouent le jeu, donc c'est plutôt cool, quoi.
C'était sur la base du volontariat des gens.
La base du volontariat, ouais. Okay. On avait ciblé aucune personne. On avait dit voilà, il nous faut, je sais plus exactement comment c'était, mais il nous faut une cinquantaine de personnes. Venez si vous voulez. Et les gens sont venus et on a eu même plus de 50 portraits, je crois.
Excellent.
Donc, trop bien.
Le
et les gens sont contents.
Là.
Ouais, le panneau est. Il y a une partie qui est partie parce qu'ils refont le parc.
Ouais.
Mais c'est cool parce que je le vois. En fait, le panneau est quasiment devant mon atelier, donc je le vois souvent. Et les gens s'arrêtent, essayent de se reconnaître ou reconnaissent les gens qu'ils connaissent. Enfin, c'est assez drôle, quoi. Ça fait un vrai jeu.
C'est pas mal. Je trouve que c'est cool d'intégrer, d'intégrer à la fois le projet du tram,
exactement,
qui quand même est un gros bouleversement
urbain, dans le quartier,
et à la fois d'intégrer les habitants, c'est plutôt cool.
C'est ça.
Et du côté de la commande privée, donc par exemple, là c'est avec une marque Levi's. Mais tu peux travailler avec toutes sortes de
toutes sortes. À partir du moment où le projet m'intéresse et je trouve ça intéressant pour moi, pour on va dire ma carrière et que ça a un vrai sens, généralement je refuse pas.
Il me semble. Mais en plus, tu fais quand même des projets qui sont plutôt cool ensemble.
J'essaie.
si je me trompe pas, tu as fait un projet à la piscine Molitor.
Exactement, là il y a 15 jours, 3 semaines. Ouais.
Ça c'est chouette aussi.
Ouais.
C'était dans les cabines, c'est ça ?
C'est dans les cabines en fait, dans la piscine Molitor, donc qui est une piscine un peu emblématique parisienne. Il y a, je crois que c'est 75 cabines qui ont été aménagées par 75 artistes du monde entier. Et donc voilà, j'ai eu la chance qu'on me propose une des cabines, donc j'en ai fait une là récemment.
Trop cool.
Ouais, très très bien.
Ah ouais. Il nous reste 2 petites minutes.
Okay.
Je voulais te poser une question très technique. Quand tu fais du collage comme ça, mais dans l'espace public, et que c'est dans le cadre d'une commande, comment tu fais pour que ça tienne ?
Alors, dans tous les cas, ça reste éphémère.
Okay.
Jamais je dis que l'œuvre est pérenne,
d'accord,
parce que c'est pas vrai. Des fois, elle reste beaucoup plus. J'ai des fresques qui ont tenu 5-6 ans parce que c'était bien abrité et le mur était, on va dire, adapté pour ça.
Okay.
Mais généralement, la technique, tu veux dire, ou comment
je me dis, une collectivité qui fait appel à toi pour une fresque, enfin pour la réalisation d'une œuvre.
Je choisis le mur. Si je peux choisir le mur,
okay,
donc à chaque fois, je dis, ça serait bien que j'ai 2-3 solutions de mur. Parce
d'accord,
qu'en fonction du mur, ça restera plus ou moins.
Mm-hmm.
Mais dans tous les cas, c'est éphémère. Donc, il y en a qui peuvent rester 6 mois si vraiment le mur n'est pas hyper adapté. Je n'ai pas eu le choix. Comme ça peut rester 5-6 ans.
Okay.
Ça dépend vraiment de la localisation du mur, s'il est protégé, la matière, etc.
Ok. Et sinon, tu bosses sur des panneaux comme là à
Clémenceau ? Et non, c'est très, très rare.
Ah, c'est rare. Okay.
Les panneaux à Clémenceau, c'est la première fois que je le fais habituellement.
Okay.
Je travaille souvent du papier. Alors après, je choisis un type de papier différent en fonction de la matière.
Okay.
Ça dépend du lieu et de la texture du mur.
Le parti pris éphémère et voilà, ça c'est là.
Mais ça
c'est
fait partie pour moi, c'est
bien
on
sûr
le voit, tant mieux, on le voit pas, on verra la prochaine. En fait.
Fallait être là avant.
Exactement, c'est ça.
Il nous reste 6 minutes, qu'est-ce que tu peux nous dire sur des projets à venir peut-être ?
Alors, comme projet à venir, comme je disais tout à l'heure, j'ai une fresque qui est au foyer La Mie de Pain à Paris, qui est le plus vieux foyer parisien dans le 13e. J'ai une autre fresque pour un festival à Grimaud, juste à côté de Saint-Tropez. Là, tout ça, c'est en mai. Et puis après, le reste, c'est des projets qui sont soit secrets, soit pas officiels. Donc, je peux pas trop en dire.
Ok, d'accord. Bon, Saint-Tropez, ça va, pas mal comme cadre aussi. Hein.
Ouais, pas mal. Ah, je connais pas, je vais y aller.
Tu te débrouilles pour être toujours dans des endroits plutôt cool, hein, je trouve. on arrive à la fin de cette émission, c'est passé vite encore une fois. Merci beaucoup Quentin d'être venu dans Terrain Vague. Merci à Tom en régie, mon fidèle Tom. Et à bientôt, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
Il s'affiche aussi bien en ville qu'à la campagne. On s'intéresse maintenant au phénomène des tags et des graffitis.
Et c'est une jolie promenade poétique.
Et sur le mur de l'église, des inscriptions pornographiques à l'encontre de Jésus.
C'est quelque chose de gratuit que les gens peuvent s'approprier.
Bah regardez, là, c'est pas beau, ça. C'est pas beau, c'est des phrases, il n'y a pas de graphie, c'est pas beau.
Ce sont des inscriptions obscènes.
On arrête de percevoir les graffeurs comme des délinquants. On s'aperçoit que c'est de véritables artistes.
Bon, ils peaufinent bien leur plan que tels des braqueurs de banque, en fait. Hein.
C'est très inspirant parce que c'est divers, varié.
Mais symboliquement, c'est quelque chose de très fort et de grave, symboliquement.
Terrain Vague, une émission proposée par Laura Marie.